Bonsoir ou peut-être bonjour. En tout cas, ici à Paris, il est maintenant pile 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Des faits, des commentaires, des analyses et des reportages. C'est RFI Soir, tout de suite le journal. Le nord de la bande de Gaza est au bord de la famine. L'alerte est lancée aujourd'hui par les Nations Unies. Le soutien de l'Union Européenne à l'Ukraine est indéfectible, déclaration du chef de la diplomatie de l'UE. Joe Biden recevra Donald Trump à la Maison Blanche mercredi prochain. Première rencontre depuis leur débat de l'été dernier.
RFI.
Alors que les opérations de l'armée israélienne contre le Hamas et le Hezbollah continuent, la diplomatie a toujours du mal à avancer. C'est ainsi que le Qatar a retiré sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien après des mois d'efforts infructueux et d'annoncer que le bureau politique du mouvement islamiste à Doha n'a plus de raison d'être. Depuis plusieurs mois, les États-Unis se montraient insistants pour que Doha n'accueille plus le Hamas sur son sol. Écoutez ce qu'en dit Hazni Abidi. Il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Les Américains ont demandé aux Qataris de fermer le bureau du Hamas parce que le bureau tire sa légitimité de la continuation des négociations. Les Américains sont sonnés, surtout l'administration Biden, puisqu'elle n'a pas réussi à finir son mandat, au moins avec un accord avec les Israéliens et avec le Hamas. Je pense que cette conclusion les a poussés à demander la fermeture du bureau, qui ne date pas d'hier, mais date de plusieurs mois, puisque pour les États-Unis, le bureau du Hamas ouvert à Doha n'a aucun sens puisqu'il ne sert à rien. Il ne faut pas oublier que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les Américains et plusieurs États européens.
Hazni Abidi, joint à Genève par Pierre-Olivier. La bande de Gaza subit désormais, en plus des opérations militaires, un arrêt quasi total de l'aide alimentaire. L'ONU publie aujourd'hui un rapport qui met en garde contre un risque de famine. Elisa Fellier, l'organisation internationale tira à nouveau la sonnette d'alarme.
Les seuils de famine ont peut-être déjà été franchis ou le seront dans un avenir proche. Voilà ce que précise le dernier rapport de l'ONU. La surmortalité due à la malnutrition et aux maladies ne fait qu'augmenter, car l'acheminement de l'aide humanitaire devient quasi impossible avec la poursuite des opérations militaires. Les autorisations de livraison d'aide se font de plus en plus rares dans la bande de Gaza. Leur nombre n'a jamais été aussi bas depuis octobre 2023. En parallèle, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et les conditions d'hygiène sont dans un état critique. Les experts de l'ONU s'étaient déjà alarmés le 17 octobre dernier. Ils estimaient alors que 16% des Gazaouis seraient confrontés entre novembre et avril 2025 à un niveau de faim qualifié de catastrophique, c'est-à-dire le niveau le plus élevé sur l'échelle de l'insécurité alimentaire. Face à ce terrible constat, l'ONU appelle la communauté internationale à réagir. Si rien n'est fait rapidement, ce sont des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui risquent de sombrer dans la famine.
Cette situation au Proche-Orient et ses extensions en Europe, notamment jeudi prochain au football, les Bleus affronteront l'équipe israélienne au Stade de France. Une rencontre sous haute tension alors que des supporters israéliens, vous le savez, ont été agressés il y a deux jours à Amsterdam. Cela après un match de la Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Les autorités françaises ne veulent pas prendre de risques, le risque de voir ces événements se répéter à Paris, et annonce donc, Laurence Théo, la mobilisation d'un important dispositif policier.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, reste clair sur le sujet. Le match qui va opposer la France à Israël aura bien lieu au Stade de France. Pas question de l'annuler ou de le délocaliser, même après les violences de jeudi soir à Amsterdam. Pas question de renoncer donc, même si les matchs de football impliquant Israël sont tendus depuis un an. Et pour que la rencontre se passe dans de bonnes conditions, il y aura un déploiement de forces de l'ordre exceptionnel autour du Stade de France et devant l'hôtel de l'équipe israélienne. À titre d'exemple, pour un match qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, entre 10 et 15 unités de forces mobiles sont demandées. Pour le match France-Israël, il y en aura 26. Près de 3000 policiers et gendarmes seront déployés jeudi prochain aux abords du stade, qui devrait être aux trois quarts vide. Moins de 20 000 billets ont été vendus.
Laurence Théo, il est 18h05 en temps universel. Le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine est indéfectible. Voilà ce que dit le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, qui s'exprimait à l'occasion de la première visite d'un haut responsable européen à Kiev depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Elle inquiète cette victoire en Ukraine et en Europe. Les deux craignent qu'il mette un terme à l'appui militaire et financier vital de Washington à Kiev dans son combat contre l'invasion russe. En Corée du Sud, le trafic naval et le trafic aérien sont perturbés par des brouillages GPS dont la Corée du Nord est à l'origine. Depuis deux jours, en effet, les signaux et les appareils de navigation sont difficilement utilisables sur les côtes sud-coréennes. Célio Fioretti.
Des perturbations qui n'ont heureusement pas causé d'accident. Le commandement militaire sud-coréen a prévenu tous les navires et avions de la zone de ne pas se reposer uniquement sur leur GPS pour éviter les drames. Les infrastructures militaires, elles, n'ont pas été touchées par ce brouillage. Ce n'est pas la première fois que le régime nord-coréen effectue des opérations similaires. En juin dernier, les signaux GPS au nord-ouest de la Corée du Sud avaient également été brouillés pendant plusieurs jours. Difficile de savoir quelles sont les motivations du régime derrière ces opérations, mais elles réussissent tout de même à inquiéter les Sud-Coréens des capacités nord-coréennes à perturber leur quotidien et leur sécurité. L'Organisation de l'aviation civile internationale a elle aussi exprimé ses sérieuses inquiétudes quant aux opérations de brouillage nord-coréennes. Le chef d'état-major sud-coréen a précisé que Pyongyang serait tenu responsable de ces actes. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Le rendez-vous est pris et il est officiel. Joe Biden recevra Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce rendez-vous est précisément fixé à mercredi prochain. L'Allemagne célèbre en ce moment même la chute du mur de Berlin, tombé il y a 35 ans. Ce fut un jour heureux qui nous rappelle aussi que la liberté et la démocratie n'ont jamais été des évidences. Déclaration du maire conservateur de la capitale allemande lors d'une cérémonie à laquelle assistait également le chef de l'État. Elle est à voir sur Netflix à partir d'aujourd'hui, l'une des séries d'animation les plus attendues de l'année. Et les trois premiers épisodes de la saison 2 d'Arcane, série animée adaptée du jeu vidéo League of Legends, réalisée par un studio français. Arcane est une fiction rétro-futuriste. C'est le fruit pour ces deux saisons de 8 années de travail. Un total de 250 millions de dollars pour la production et la promotion. Anne Verdaguer, cela en fait la série d'animation la plus chère jamais réalisée.
T'avais raison, Kate.
Il y a d'abord eu League of Legends, l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, dont les compétitions e-sport sont suivies par des millions de spectateurs chaque année. Puis en 2021 est venue la série animée adaptée du jeu Arcane, multi-récompensé avec 4 Emmy Awards. Le studio d'animation français Fortiche, lancé en 2009, avait abattu un travail colossal pendant près de 6 ans pour une série qui a mobilisé 700 collaborateurs en tout et qui a révolutionné l'animation avec des techniques mêlant 2D et 3D. Le tout étant fait à la main par chaque animateur qui produit moins d'une demi-seconde de film par jour pour 12 heures de contenu au final. L'univers, lui, est fidèle au jeu, mêlant fantasy, romance, action et horreur. Le tout est interdit aux moins de 16 ans. 3 ans après cette première saison, les 3 premiers épisodes de l'ultime saison 2 sont disponibles dès ce samedi sur Netflix avec la patte créatrice et le style artistique du studio Fortiche, dont le cofondateur dit qu'il aimerait renouveler la réussite de la saison 1, synonyme d'une incroyable expansion pour le studio qui bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance phénoménale aussi bien française qu'internationale.
Alors, arrête-moi.
Quelle patience! Il faut donc une journée pour fabriquer une demi-seconde de cette série d'animation Arcane, qui en est donc à sa saison 2. Cette question, en France, y aura-t-il des trains à Noël? Les syndicats de la SNCF appellent en effet à une grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre. Cela pour réclamer un moratoire contre le démantèlement de fret SNCF. Les syndicats veulent ainsi protester contre les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales. Ce n'est pas la première fois que des mouvements sociaux au sein de la SNCF touchent potentiellement les vacances scolaires. En février dernier, les contrôleurs avaient déclenché une grève pendant un week-end de congé, laissant 150 000 personnes sur le carreau. Pour Noël en 2022, des centaines de TGV avaient été supprimés, là aussi en raison d'une grève. Et puis près d'un millier de personnes se sont rassemblées tout à l'heure à Poitiers pour rendre hommage à Anis. Anis est cet adolescent tué fin octobre par un tireur qui a blessé 4 autres mineurs. Tous ces gens dénonçaient également l'image donnée par certains de leur quartier. La foule était donc nombreuse. Elle a allumé des fleurs, des bougies et des peluches ont été déposées devant le restaurant où le jeune homme avait été tué. Ainsi va le monde. Vous écoutez Radio France Internationale. À Paris, venons-en à l'actualité sportive. Salut Diouf, on commence avec du football, direction l'Italie.
La Juventus de Turin, 6e invaincue à 4 longueurs du leader Naples face au Torino, 11e. Un jour de première pour Thiago Motta sur le banc de la vieille dame. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain va participer à son premier derby et à l'écouter, le coach turinois espère en disputer d'autres à l'avenir.
Si j'ai accepté cette mission, ce n'est pas pour être de passage, pas du tout. Je veux rester ici pendant de nombreuses saisons, même si je ne pense pas à ces choses, honnêtement. Je ne pense qu'à mes tâches quotidiennes, en fait. J'essaie de faire ce qu'il faut, sans arrière-pensée. Et parfois, je n'y arrive pas. Je fais de mon mieux, en tant que manager, et même plus. Quoi qu'il arrive, je serai heureux parce que je n'aurai aucun regret d'avoir donné tout ce que j'avais, et plus encore. Et c'est aussi ce que je demande à mes joueurs. Et ils partagent la même philosophie. Alors, je suis heureux car je vois que nous sommes sur la bonne voie.
Sono tranquillo e contento perché siamo nella direzione giusta.
Coup d'envoi 19h45, temps universel.
Autrement dit, dans une heure et demie, toujours du football avec la Ligue 1, une rencontre vient de s'achever.
Monaco s'est imposé dans les dernières minutes du match, 3-1 sur la pelouse de Strasbourg. Le club du Rocher revient à 3 points du leader, le Paris Saint-Germain, qui affronte ce soir le SCO d'Angers.
Voilà pour le foot. Du rugby à présent, avec un match important au Stade de France tout à l'heure.
Le 15 de France débute sa Coupe d'automne des Nations avec la réception du Japon au Stade de France. Ce match marque le retour du capitaine Antoine Dupont avec le maillot au coq, une première depuis plus d'un an et le quart d'une finale de Coupe du Monde perdue dans la même enceinte. Un retour et une innovation. La première titularisation du troisième ligne Alexandre Roumat, fils d'un ex-international Olivier. Toulousain depuis 2022, il a tapé dans l'œil du sélectionneur Fabien Galthié qui l'a découvert de plus près lors de ses 4 entrées en jeu lors du dernier tournoi des 6 Nations.
Depuis qu'il est à Toulouse, il enchaîne les titularisations, il enchaîne les grosses performances. Il joue en 8, il peut jouer en 7, il peut jouer en 4. C'est un joueur qui a de grandes qualités sur tout ce qui est phase de conquête, notamment tout ce qui est phase aérienne, mais pas que. C'est un joueur qui travaille énormément au sol. C'est un joueur qui sait tenir le ballon, qui sait porter le ballon, qui sait faire jouer, qui défend bien sur l'homme, qui travaille bien défensivement qu'offensivement. Donc c'est un joueur qui, de par ses performances avec Toulouse et avec nous, bien mérite de débuter face au Japon.
Coup d'envoi de la rencontre, 20h10, temps universel.
Et encore un mot de MMA.
Absolument. Umar Khan, alias Rug a marqué l'histoire de son pays cette nuit. Il est devenu, figurez-vous, le premier champion du monde des poids lourds sénégalais dans ce sport. Il inspire toute une génération. Ce sont les mots du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a rendu hommage à Rug sur le réseau social X.
Salut Diouf pour les sports sur RFI.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
La Chine et les États-Unis se rencontrent au Pérou. En effet, Lima accueille le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ce qu'on appelle aussi avec l'acronyme LAPEC. Martin Chabal est le correspondant de RFI au Pérou. Alors, ce sommet est notamment l'occasion pour la Chine de continuer à placer ses pions sur le continent américain, Martin.
La Chine veut inonder le continent américain. Déjà premier partenaire commercial du Pérou, elle espère bien signer de nouveaux accords pendant cette semaine. Le tout dans le cadre des nouvelles routes de la soie, le cœur de la politique étrangère de la Chine. Ces routes commerciales tracées par Pékin pour faciliter les échanges avec certaines régions du monde. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de la venue du président chinois Xi Jinping à l'APEC. Cette semaine, Lima et Pékin vont profiter de l'occasion pour inaugurer un port de marchandises gigantesque sur les côtes péruviennes. Le port de Chancay, dans le nord de Lima, va devenir la nouvelle porte d'entrée de la Chine sur le continent américain. Un port où près de 1500 ouvriers ont travaillé 24 heures sur 24 pour faire sortir de terre ce mastodonte. C'est là que des navires de plus de 400 mètres de long qui transporteront environ 18 000 conteneurs débarqueront leurs marchandises.
Et ce projet immense donc est financé par la Chine et qui doit faire grincer des dents du côté des États-Unis.
Ce port est vraiment un symbole pour la région, pour la Chine donc, mais pour Washington bien sûr. Les États-Unis, pourtant ultra présents sur le continent, voient leur influence reculer et ce sommet de l'APEC en est bien la preuve. Avec ce nouveau mégaport, la Chine va accélérer son entrée sur le marché, Par exemple, en livrant des milliers de voitures électriques chinoises par bateau. Pour l'un de ses derniers déplacements, Joe Biden va avoir fort à faire pour tenter de maintenir son influence sur la zone, bien qu'il tentera de maintenir les liens avec le Canada et le Mexique. Mais ça reste un sommet important pour que Washington et Pékin puissent continuer de discuter. Surtout que depuis l'élection de Donald Trump, le dialogue s'annonce plus musclé pour les années à venir. C'est en tout cas ce qu'il s'était passé lors de son premier mandat à la Maison-Blanche.
Pris dans des dialogues entre superpuissances, le Pérou va également, Martin, devoir faire avec ses querelles en interne.
Les Péruviens, eux, ne sont pas vraiment enjoués à l'idée d'accueillir ce sommet international. Le pays traverse une crise politique majeure, la criminalité augmente depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Dina Boluarte il y a maintenant presque 2 ans. Beaucoup de Péruviens préféreraient qu'elle s'occupe d'abord des problèmes internes avant de discuter avec la Chine. Pour protester, les syndicats ont d'ailleurs appelé à la grève générale la semaine prochaine, des manifestations qui risquent d'être réprimées dans la violence, comme l'a prévenu la présidente péruvienne, qui qualifie déjà les futurs manifestants de traîtres à la nation.
Martin Chabal en ligne du Pérou. La Chine qui est dirigée fermement par Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste et président à vie. Dans la bande dessinée Xi Jinping, l'empereur du silence, l'auteur Eric Meyer, le dessinateur Gianluca Constantini déroule le film de sa vie, allant de son enfance dorée à la disgrâce de sa famille jusqu'en 2022, puisque cette année-là, c'est le couronnement et un troisième mandat reconductible. Eric Meyer, qui a passé plus d'une trentaine d'années en Chine, en dit plus. Heike Schmidt.
Bonjour Eric Meyer.
Bonjour à vous.
Vous vous êtes lancé dans un sacré défi, celui de percer le mystère de l'homme le plus puissant du monde, mais certainement aussi le plus discret. Dans votre bande dessinée, vous faites parler Xi Jinping, que vous appelez pourtant l'empereur du silence, et vous dites vous-même que cela a été une traversée du désert. Alors combien de discours de Xi avez-vous donc épluché?
Un autre analyste le décrit comme ça et dit qu'il a manger la saucisse de rhinocéros. Donc j'ai mangé la saucisse de rhinocéros, mais pas autant que lui. Je n'ai pas lu ses dizaines de discours, ses centaines d'articles. Il a 4 livres sur sa vie et ses opinions qui sont publiés dans 29 langues, souvent envoyés à titre gratuit d'ailleurs par les services de propagande chinoise. J'ai pas lu tout ça, c'est vrai.
Mais les citations sont authentiques.
Les citations sont authentiques avec un tout petit remodelage pour des raisons stylistiques.
Le couteau s'affûte sur la meule et l'homme sur les épreuves. C'est l'une des citations de Xi que j'ai retenue. Et en fait, d'épreuve, la vie de ce petit prince rouge ne manque pas du tout. Est-ce que ces épreuves ont façonné l'homme et peut-être aussi le dictateur qu'il est devenu?
Je pense que oui et que sa formule est factuellement exacte. Xi Jinping est une drôle de contradiction vivante parce qu'il est né dans un palais. Derrière les hauts murs rouges de Zhongnanhai à Pékin, il avait les meilleures écoles de Pékin. Il allait à la mer pendant l'été. Son père avait une voiture, avait un chauffeur, il avait le téléphone. C'était un luxe incroyable quand il est né en 1953. Et puis, 7 ans plus tard, boum, le père est dénoncé, déchu. Et Xi Jinping se retrouve tout de suite en proie à des sévices. Personne ne veut plus lui parler. Encore 3 ans plus tard, c'est la révolution culturelle qui arrive. Et là, c'est encore pire. Il a été forgé comme un fer rouge. Il a subi toutes les épreuves. Il en a survécu, mais il était transformé.
Alors, sa famille a été persécutée, sa sœur s'est même suicidée et pourtant, Xi Jinping reste fidèle au parti quasiment aveuglément. Vous le citez avec ces mots, « Je réalise que seul je ne suis rien, je me suis branché sur la seule source d'énergie infinie, le parti ». Alors pourquoi ce dévouement total au parti communiste?
Parce que c'était ce qui était le plus proche de lui. L'alternative, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est un inconnu où il faut tout construire. Il a cette conviction absolue que sans l'unité du parti et la force intacte du parti derrière, la Chine est ingérable.
Et on comprend aussi au fil des pages que pendant tout le début de sa carrière, Xi Jinping a pu s'appuyer en fait sur sa mère, ce qui est peut-être un peu moins connu parce qu'elle travaillait à l'école du parti. Est-ce que c'est finalement elle qui lui a ouvert beaucoup de portes?
Totalement, elle, mais son père aussi. Elle connaît tous les patrons de la Chine. Elle va les appeler pour leur demander de promouvoir, de protéger son fils. c'est d'écarter ses ennemis.
Par moment, votre bande dessinée se lit comme un polar avec des règlements de compte, des sabotages et même des meurtres dans cette guerre de succession dont il sortira gagnant en 2012. Alors aujourd'hui, il a écarté en fait un à un ses rivaux. Est-il quand même encore aujourd'hui hanté par la peur d'être éliminé?
Xi Jinping s'est attelé à liquider systématiquement toutes les oppositions, toutes les divergences, les intellectuels, la presse, les églises, même l'ancien premier ministre est disparu d'une manière qui n'a convaincu personne. Il est mort soi-disant noyé dans une piscine à Shanghai. En réalité, il avait été arraché du pouvoir quelques mois plus tôt et il a probablement été éliminé par Xi Jinping. Xi Jinping certainement a peur de l'avenir et j'en veux pour preuve le fait que le plénum d'octobre, qui se tient tous les ans en octobre et qui réunit le comité central, eh bien, elle a été annulée sans raison, mystérieusement.
Et au début de son règne, les Chinois le surnommaient Xi Dada, oncle Xi. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit régner par la peur, à votre avis?
Il règne totalement par la peur. Il est totalement détesté. Un des surnoms qu'on lui donne aujourd'hui, c'est Sitle, ce qui veut dire Hitler. 40% de ses fonctionnaires pratiquent le tangbing, c'est-à-dire se coucher. Ils ne veulent plus prendre d'initiative. En ne prenant plus d'initiative, ils privent la Chine de son premier et de son unique avantage sur le reste du monde, qui est le dynamisme.
Xi Jinping, l'empereur du silence, une BD écrite par Eric Meyer et dessinée par Gianluca Constantini, parue aux éditions Delcourt. Merci Eric Meyer.
Avec plaisir.
RFI Soir vous emmène maintenant sur la plus grande île lacustre d'Afrique. Ukerewe, c'est 500 km² de terre dans les eaux du lac Victoria, à 50 km de la ville tanzanienne de Mwanza. Alors ces pêcheurs se désolent parce qu'il y a une diminution des stocks de poissons depuis quelques années. Écoutez ce reportage d'Elodie Goulesque.
Samaki, le poisson en swahili, est désormais bien difficile à trouver dans les eaux entourant Ukerewe. Pambano Boniface, pêcheur sur le lac Victoria depuis 15 ans, voit ses filets remonter de plus en plus vides.
Vous quittez la maison et naviguez pendant plus de 6 heures à la recherche de poissons. Vous partez 3 ou 4 jours et il n'est même pas sûr que vous en trouviez. Vous pouvez partir pendant des heures et revenir avec seulement 2 kilos de poissons, ou parfois rien du tout.
L'économie de l'île dépend principalement de la pêche, alors certains pêcheurs, comme Damien Simon et ses collègues, s'essaient à la pisciculture.
C'est quelque chose de nouveau que nous ne faisions pas dans le passé. On pêchait normalement dans le lac, mais nous avons commencé à cause du manque de poissons.
Tous ne peuvent se permettre ces techniques car le coût de mise en place reste élevé et le gouvernement, même s'il promeut ces méthodes, n'offre pas d'aide au financement. Certains tentent donc de se tourner vers d'autres activités comme l'agriculture, mais ils font face à des défis similaires, comme l'explique Joyce Comania de l'organisation Centre juridique et des droits de l'homme à Dar es Salaam.
Ils pensent que de passer de la pêche à l'agriculture peut les aider, mais en réalité, les agriculteurs ont eux aussi leurs propres problèmes liés au changement climatique.
Le changement climatique, c'est l'une des causes majeures de ce manque de poissons. Les pluies sont de plus en plus rares, mais les épisodes pluvieux, eux, sont de plus en plus intenses, provoquant notamment une montée des eaux du lac. À cela s'ajoutent des techniques de pêche inadaptées avec des filets qui capturent même les plus petits poissons qui n'ont pas le temps de se reproduire. Pour Pambano Boniface, le futur est incertain.
Je vois un avenir difficile. Si notre présent est rude, le futur le sera bien plus.
En 2024, le niveau des eaux du lac Victoria est supérieur à toutes les années records enregistrées depuis 1992. Elodie Goulesque, Ukerewe, RFI.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Et nous parlons de Canal+, qui fête ses 40 ans. Le diffuseur crypté est devenu bien plus qu'une simple chaîne de télévision depuis l'époque de ce premier jingle. Amaury de Rochegonde, il est aujourd'hui un groupe avec des grandes ambitions internationales.
Oui, si on parle encore parfois de Canal+ comme d'une chaîne cryptée, c'est en référence à ses débuts, il y a 40 ans, lorsque la chaîne a été la première à se lancer sur un modèle par abonnement. Elle était alors perceptible avec son floutage et ses grésillements sur le quatrième canal d'une télévision qui ne comptait alors que trois chaînes. Son fondateur est André Rousselet, qui en tant que président d'Havas est un proche de François Mitterrand. C'est lui qui va faire le succès de Canal+. Il démissionne et est remplacé par Pierre Lescure en 94, lorsque Canal+ tombe sous la dépendance de la Compagnie Générale des Eaux de Jean-Marie Messier. Puis le groupe s'engage dans l'aventure américaine de Vivendi, qui rachète Universal, et essuie son premier échec en Italie. Canal+ se redresse et développe ses séries originales sous la présidence de Bertrand Meheux. Ce n'est qu'en 2014-2015 que Vincent Bolloré prend le contrôle du groupe.
Et là, beaucoup de choses changent pour Canal+, Amaury.
En effet, d'abord parce que Vincent Bolloré apporte avec lui sa chaîne de la TNT qui va devenir C8 et transforme iTélé en CNews. Ce sont là deux chaînes que le régulateur a plusieurs fois mises à l'amende et qui sont accusées de pencher à l'extrême droite. Il fait subir une cure d'austérité à la chaîne Canal+, en supprimant la plupart de ses programmes gratuits comme le Grand Journal ou les Guignols. C'en est fini du ton libre et décalé de Canal. La chaîne conserve son engagement dans le cinéma mais arrête d'être le diffuseur de la Ligue 1. Le groupe va perdre sa fréquence TNT pour C8. Il se voit désormais comme un distributeur de programmes à travers MyCanal qui diffuse les principales plateformes de streaming.
Et puis il y a également un nouvel axe pour Canal+, c'est à l'international, notamment en Afrique.
Oui, le groupe était déjà présent en Afrique, mais il se développe en Europe centrale et en Asie. Les deux tiers de ses 26 millions d'abonnés se situent désormais hors de France, où il reste déficitaire. Et c'est au printemps qu'il lance une offre publique d'achat sur son rival sud-africain MultiChoice pour s'implanter en Afrique anglophone et lusophone. Il lui reste encore à convaincre les autorités antitrust à Johannesburg, notamment en montrant qu'il prend des engagements pour le maintien de l'emploi, alors que la loi interdit à une société étrangère d'avoir plus de 20% des droits de vote. S'il réussit, le groupe arrivera à 50 millions d'abonnés. Il sera coté à Johannesburg après avoir été coté à Londres en décembre prochain, un signe de sa volonté d'attirer les investisseurs et de poursuivre ses acquisitions.
Amaury de Rochegonde dans RFI Soir.
Paris, 89 FM.
Paris, ou à Montmartre, au théâtre du Funambule, est jouée Alice Guy, Mademoiselle Cinéma, comme une résonance à la statue dorée de cette femme qui avait été dévoilée le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en même temps que neuf autres évoquant des femmes qui ont compté. Alice Guy est une pionnière du cinéma. À la toute fin du 19e siècle, elle avait été la première à avoir l'idée de réaliser un film de fiction, alors que tous ne voient encore qu'une prouesse technique dans les projections cinématographiques des frères Lumière. De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise plus de 1000 films, fréquentant Georges Méliès, Louis Lumière, Léon Gaumont, Gustave Eiffel. Mais ce sont les Américains qui lui reconnaîtront son talent à cette femme qui ne se laissait pas faire. Sa vie trépidante et créative est racontée et interprétée par Caroline Reynette.
C'est une pièce féministe parce qu'on voit dans cette pièce que les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Alice Guy ne se mettait pas de frein et elle ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi les autres femmes n'essayaient pas de faire des choses, de dépasser ce que la société leur imposait à l'époque. Elle était hyper curieuse de tout, elle avait envie d'essayer et puis elle est la première à avoir réalisé un scénario, donc la première à réaliser un film de fiction. Elle voit plus loin que les autres, elle est artiste en fait. Gaumont, c'est un scientifique, un ingénieur, les frères Lumière pareil, et elle, tout de suite, elle faisait du théâtre, et tout de suite, elle se dit, mais oui, avec ça, on va pouvoir faire comme au théâtre, on va pouvoir filmer, et c'est elle qui, la première, introduit les seconds plans au cinéma, donc on n'est plus du tout dans du théâtre filmé. Sa carrière américaine, qui commence en 1910, elle commence à comprendre qu'il faut que le cinéma soit plus naturel. Elle avait aussi, elle est la première, et malheureusement ça ne s'est pas fait, à avoir l'idée de faire des documentaires. Elle n'a pas trouvé de producteur pour financer ces documentaires-là, qui étaient d'ailleurs sur la condition des femmes. Mais elle est la première à avoir l'idée de se dire « la caméra, on peut l'utiliser pour montrer, justement, dénoncer des faits de société ».
Soyez naturel, c'est ce qu'ordonnait Alice Guy à ses acteurs. Dans des décors et des costumes d'époque, la pièce Alice Guy, Mademoiselle Cinéma est donnée tous les lundis et mardis pour encore un mois au théâtre du Funambule au pied du Sacré-Cœur. Vous écoutez Radio France Internationale, RFI Soir, dans une minute ce sera Afrique Soir.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
Bruno Faure.
Le retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump, un nouveau choc économique pour le monde après le Covid et la guerre en Ukraine. Trois grands économistes, l'américain Robert Gordon, le français Philippe Aguillon et le russe Sergueï Gouriev, analysent les conséquences multiples de cet événement.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI. Le club RFI, Éric Amien.
Un nouveau club RFI à l'île d'Idjoui. La famille du club s'agrandit avec la création d'un nouveau club à Idjoui, en RDC. Obero Kutimeni, président du club, raconte les particularités de son île qui se trouve au milieu du lac Kivu. Le club RFI, de loin, l'émission la plus proche.
Le club RFI, Éric Amien.
Dimanche, à partir de 19h40.
RFI.